Bonjour à toutes et à tous. 3 février, c'est l'émission Le National qui vous permet de découvrir ce qui s'écrit dans les journaux francophones partout au Canada, d'est en ouest et du nord au sud. C'est Clotilde Say pour vous accompagner et pour vous faire la lecture de ces papiers écrits par les uns et par les autres. Allez, tiens, on commence par aller chez nos voisins ontariens et j'ai trouvé ça dans l'express.ca, un papier de Laurie Humbert, sorti le 29 janvier dernier. Ça s'appelle « Le français ». Un avantage pour l'avenir professionnel des enfants. Entre 30 et 60 personnes ont participé au carnaval de Glendon pour les jeunes, organisé de concert par le campus bilingue de l'Université York et l'association Canadian Parents for French, dans le but d'intégrer la communauté francophone de Toronto et les programmes en français de l'Université. De 10 à 15 heures, les équipes de Glendon ont travaillé à promouvoir leur programme en français et l'apprentissage du français qu'ils proposent en immersion ou en français intensif, mais aussi l'accompagnement en français, c'est-à-dire le soutien scolaire et l'aide aux devoirs. Selon Jordan Suas et Jennifer Sipo-Smith, les organisatrices du carnaval de Glendon, une deuxième langue permet une flexibilité professionnelle dans la vie et multiplie les possibilités de carrière et d'emploi. Elles ajoutent, pendant l'enfance, les petits ne se rendent pas compte des bénéfices d'une deuxième langue, mais c'est un avantage pour eux. Les parents présents sont consensuels. Parler français au Canada est un avantage pour l'avenir de leurs enfants. L'Express a recueilli auprès des parents présents et du personnel les principales raisons qui décident les parents à diriger leurs enfants vers une éducation scolaire en français. Il est important de comprendre les deux langues officielles du Canada. C'est la principale raison recueillie. Le français n'est pas seulement une autre langue ou une seconde langue dont il faut avoir quelques notions pour enrichir un CV, mais c'est bien l'autre langue officielle du Canada. À l'échelle du Canada, une mobilité professionnelle engage le bilinguisme qui permet de travailler non pas seulement au Québec, mais aussi partout au Canada où il est nécessaire de s'adresser à tous les Canadiens, quelle que soit la branche de métier. Savoir maîtriser les deux langues canadiennes permet alors de se démarquer lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Seulement 18% des Canadiens sont bilingues. Le Canada attire beaucoup de francophones du monde entier et Toronto et son dynamisme économique est une ville appréciée de certains Québécois qui s'y installent. Pour autant, les parents francophones tiennent souvent à ce que leurs rejetons reçoivent une éducation en français dans un pays où il est si facile de se laisser tenter par l'anglais comme langue unique et internationale. Le français devient alors langue familiale, commune. Pas seulement parlé en France ou au Canada, le français est une des 6 langues officielles au monde, parlée sur tous les continents par environ 274 millions de personnes, nous rappelle Laurie Humbert. C'est aussi la deuxième langue officielle de l'ONU et des Jeux olympiques, avec l'anglais. Au-delà du Canada, l'aspect international du français séduit les parents. Le français, c'est aussi la langue de plusieurs cultures, et la maîtriser permet de s'enrichir et de sortir d'un certain ethnocentrisme américain. Pour les parents, culture va de pair avec perspective, et ce point rejoint celui de l'ouverture professionnelle. Pourtant, c'est aussi une ouverture intellectuelle, purement culturelle, qui plaît aux parents canadiens. Véritable village d'irréductible gaulois francophone, la communauté franco de Toronto a su, au cours des dernières années, entretenir son réseau et se moderniser. En Ontario, elle représente plus de 600 000 personnes, auxquelles se rajoutent les vagues migratoires incessantes de jeunes en PVT qui viennent goûter à la vie canadienne pour un an, deux ans ou pour toujours. Pouvoir s'adresser, voire s'intégrer à cette communauté est un plus, professionnellement et personnellement. Enfin, certains ou certaines avancent la théorie selon laquelle les compétences de langue stimulent le cerveau et augmentent la capacité à apprendre plus vite et mieux toute matière confondue, notamment en logique et en mathématiques.
Tu m'as pas dit que tu partais pour aller boire aux nuages. Les animaux sentiments que je connais n'ont jamais soif des orages. Mais toi tu bois ce qui se boit et tu te fous de la nature. Tu m'as pas dit que tu aimais aller regarder les étoiles. Les animaux que je connais ont peur que ne leur fasse mal. Mais toi, tu aimes les planètes et tu crois qu'elles te regardent. Mais toi, tu aimes les planètes et tu aimerais qu'elles te gardent. Les animaux que je connais ne parlent jamais de voyage. Mais pour toi la vie est un lit et ton sommeil est une plage. Pour toi le corps est un habit, le plus glorieux sarcophage. Je t'ai vu.
Pelgargue sur les ondes de Canal M. Et je vous rappelle que c'est Clotilde Sey qui vous accompagne à l'émission Le National qui vous permet de découvrir des papiers qui sont écrits par des journalistes francophones éparpillés dans les communautés francophones du Canada. Nous sommes en Ontario toujours avec l'action.ca et on nous parle de London qui accueille une compétition de hockey sur luge et c'est Philippe Thivierge qui évoque cette compétition-là et qui écrit dans l'action.ca « Le monde du sport n'est pas statique et aux côtés des grandes disciplines connues de tous apparaissent parfois de nouvelles activités physiques venant combler un besoin ou répondre à des goûts jusque-là passés inaperçus. » Né dans un centre de réhabilitation de Stockholm en Suède dans les années 1960, le hockey sur luge est l'un de ces sports souvent méconnus. Du 26 au 28 janvier, London accueillera pour une 14e année un tournoi international rassemblant des passionnés de ce sport. Alors, vous aurez compris que c'était déjà il y a quelques jours, mais je trouvais intéressant le papier pour nous présenter un peu mieux ce qu'est le hockey sur luge. Alors, qu'est-ce que c'est que le hockey sur luge? Eh bien, il s'agit d'une discipline permettant à ceux qui ont perdu l'usage de leurs jambes de pratiquer une activité très semblable au hockey traditionnel. Les joueurs sont assis sur des petites luges adaptées auxquelles sont fixées deux lames de patins et se déplacent en se poussant avec de courts bâtons. L'une des extrémités de ces bâtons est munie de petites dents en métal destinées à s'agripper à la glace et aider l'athlète à se mouvoir, tandis que l'autre est fait d'une palette, comme en ont les bâtons de hockey ordinaires. Les règlements sont presque identiques à celui du sport dont s'inspire cette version pour personnes handicapées. Les matchs du tournoi de London ont été disputés au Western Fair Sports Center et au Nichols Arena. Classés dans six divisions basées sur le niveau d'habileté, les 44 équipes sont pour l'essentiel ontariennes, mais on retrouvait aussi parmi elles une formation du Québec, deux de l'Alberta, neuf des États-Unis, de même que l'équipe nationale de Suède. London dispose de son propre club de hockeyeurs sur luge, le Blizzard. Créé en 1997 avec pour intention première d'offrir une occasion de faire du sport aux enfants vivant avec un handicap, l'équipe est aujourd'hui constituée de différentes divisions et compte de nombreux joueurs de tous âges et des deux sexes. Sur la scène internationale, le hockey sur luge a également pris de l'expansion, surtout depuis qu'il dispose de la vitrine olympique. En effet, depuis les Jeux de Lillehammer en 1994, ce sport fait partie des favoris aux Jeux paralympiques et ce sera encore le cas à Pyeongchang en mars prochain. Il n'y a pas d'âge pour rester en forme, ni non plus de conditions physiques préalables. Le hockey sur luge le démontre amplement et donne souvent lieu à des échanges qui n'ont rien à envier aux matchs de hockey conventionnels. Et puis nous sommes toujours en Ontario avec l'action.ca. Cette fois-ci, Philippe Thivière, je nous parle d'un timbre à la mémoire d'une femme. Elle s'appelle Kathleen Livingstone. Le 1er février, donc il y a deux jours de cela, Poste Canada a souligné le mois de l'histoire des Noirs par l'émission de deux timbres. L'un à la mémoire de Lincoln Alexander, 1922-2012, premier Noir élu à la Chambre des communes, à devenir ministre fédéral, puis lieutenant-gouverneur de l'Ontario, et l'autre, dédié à Kathleen K. Livingstone, comédienne et animatrice de radio qui milita pour l'amélioration des conditions de vie des femmes noires. Née en 1918 à London, elle passe toute sa jeunesse dans cette ville du Sud-Ouest où se développe son intérêt pour les arts du spectacle. Elle étudie la musique à Toronto et à Ottawa et après son mariage en 1942, elle et son mari emménagent dans la ville reine où ils élèvent leurs enfants. Mais Kathleen Livingstone ne pouvait se contenter d'être mère au foyer et elle entreprend une carrière d'actrice qui fait sa renommée, en plus d'animer une émission de radio consacrée à la poésie, à la musique et à la culture des Noirs d'ici et d'ailleurs. Dans les années 1950, sa position sociale en fait une tête d'affiche du mouvement d'émancipation des Noirs. Au Canada, l'inégalité n'était pas tant une question de droit civique que de conditions socio-économiques et cette prise de conscience l'amène à fonder en 1951 une société d'assistance mutuelle nommée Canadian Negro Women's Association, la CNWA, donc la CNWA, dont elle devient la première présidente et dont elle sera un membre actif toute sa vie. En 1973, elle organisera avec cet organisme le premier congrès national des femmes noires du Canada à Toronto, un événement dont la CNWA tire son nom actuel. La CNWA n'est pas le seul mouvement auquel Kathleen Livingstone est donnée de son temps et de ses énergies. L'Association canadienne pour les Nations unies, la YMCA, la Ligue nationale des Noirs du Canada, le Conseil canadien des églises, la Société d'aide juridique et héritage Ontario ont également bénéficié de son intérêt marqué pour l'avancement de la société. Son activisme l'a amené à être nommé experte conseil pour le Conseil privé du Canada. En 1975, dans le cadre de l'Année internationale de la femme, proclamée par l'Organisation des Nations unies, elle parcourt le pays afin de mettre sur pied une conférence nationale de femmes issues des minorités visibles. C'est alors qu'elle travaille à ce projet, qu'elle décède subitement, laissant dans le deuil les Canadiens de race noire qu'elle avait contribué à faire mieux connaître et auxquels elle avait donné espoir et fierté. En 2011, le gouvernement fédéral a désigné Kathleen Livingstone comme personnage d'importance historique nationale. Aujourd'hui, ce timbre immortalisera d'une nouvelle façon sa contribution à la société canadienne.
C'est comme la première neige et le premier printemps, c'est comme la première fois, je t'aime tout autant. On s'était cru si seul, on ne sait plus trop quand. On avait dans les yeux ce qu'on voulait pourtant. Mais la nuit, l'aventure a fait de nous ses anges. Et nous vivons ce ciel qui n'est ni toi ni moi. On se serait cru battu, rien de cela ne ressemble à l'éclair d'espérance qui toujours nous rassemble. Être aussi merveilleux et si bête à la fois, être aussi mendiant en se donnant nos cœurs. Comme on reçoit la neige au seuil de ce printemps, en toi-même endiablé d'un aussi fol amour. C'est comme la première neige et le premier printemps. Mon amour, mon amour. Mon étoile du Nord. Va donc voir nos amis qu'on avait dans le temps. Eux-mêmes te diront ce que j'étais pour toi. Si tu reconnaissais dans le noir des nuages mon cri de femme heureuse au creux de ta folie, je pourrais voir encore avec toi dans la nuit. Une étoile est en toi, une étoile est en moi. Nous désirons des mains vers un futur enfin qui rejoint nos enfances jusqu'à la fin des temps. C'est comme la première neige et le premier printemps. Mon amour, mon amour, mon étoile du Nord. C'est comme la première neige et le premier printemps. Mon amour, mon amour, mon étoile du Nord. C'est comme la première neige et le premier printemps, c'est comme la première fois et même la fois d'avant. Je t'aime tout autant, sauf que je suis parti vers un nouveau pays au large de nos vies. Ne me tiens pas rigueur d'être aussi fantaisiste, d'être aussi maladroite et si forte à la fois. Je t'admire et te plains d'être aussi seul et roi. Roi de quoi? Roi de nous? Roi de rien, mon doux fou, mon âme arme à bagarre, mon numéro perdu. À travers nos deux corps, je t'aime encore. Comme la première neige et le premier printemps, comme la première fois, je t'aime tout autant. C'est comme la première neige et le premier printemps. mon amour, mon amant, mon étoile du Nord.
Oui, grande chanson que celle-ci, chantée, interprétée là par Bory, un vieux souvenir qu'il nous fait toujours bon de réentendre. Transportons-nous maintenant, si vous le voulez bien, au Manitoba, dans la liberté.ca. Valentin Kiouf, j'espère que je prononce bien, C-U-E-2-F, nous propose une rencontre avec Natacha Canapé-Fontaine, qui est une auteure et militante autochtone. Natacha Canapé-Fontaine est une poétesse, artiste et activiste inoue. Quand je vais visiter les écoles, je dis aux jeunes « N'ayez pas peur, parce que c'est être mentalement en bonne santé dans une société que de toucher à tous ces aspects-là, les arts, la culture, la politique. » L'art et la culture peuvent-ils changer le monde? Natacha Canapé-Fontaine, 25 ans, poétesse, artiste, comédienne et activiste inoue, le pense. Originaire de Pessamit, au Québec, l'auteur de 3 recueils de poèmes parus aux éditions Mémoire d'Encrier s'est impliqué dans des mouvements sociaux pour les droits autochtones comme Idle No More. De passage à Winnipeg lors de l'édition 2017 du festival Livre en Fête, elle a partagé quelques-unes de ses aspirations. Quels ont été vos premiers pas dans la littérature? Elle répond : C'était pendant mon adolescence. Je vivais des années difficiles à la maison. Je ne sais pas comment le dire sans trop en dire. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux. J'ai étudié toute la mythologie de J.R.R. Tolkien. J'imagine que c'était ma manière de m'échapper. J'ai commencé à inventer mon monde à la manière de Tolkien. J'ai fabriqué une carte au complet, dessiné des personnages, des visages, des corps, des vêtements. C'était une façon de m'évader. Puis je me souviens avoir étudié les poèmes d'Émile Néligan à l'école. La façon dont ma professeure avait interprété le vaisseau d'or m'a bouleversée. C'était une nouvelle porte de sortie. J'ai compris que Néligan réussissait à cacher ses secrets dans ses poèmes. Il les divulguait de telle sorte que c'était accessible aux gens sans qu'ils sachent tout. Je me suis dit que je pouvais essayer cette approche. De 13 à 16 ans, j'ai beaucoup créé. Puis à 17 ans, j'ai commencé à tout lâcher. Je ne sais plus trop pourquoi, j'avais encore un peu d'intérêt pour la peinture, mais j'avais complètement abandonné l'écriture. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à y revenir? C'est en déménageant à Pessamit en 2010, pendant presque un an, que les choses ont vraiment changé. Avant, j'y allais seulement pendant l'été. À mon retour, j'ai fait partie d'un comité d'organisation de journées autochtones au cégep de Rimouski. Quand j'étais à Pessamit, je me suis dit que j'avais grandi en ville, raconte toujours Natacha Canapé-Fontaine. Je me voyais comme québécoise. Mes parents ne m'avaient pas expliqué que j'étais inoue, ou la différence entre inoue et québécois, ou ce que c'est qu'une réserve et ce que c'est qu'une ville. Ce n'était pas clair pour moi à ce moment-là. Puis, à partir de fin 2011, j'ai découvert les livres de Joséphine Bacon et Naomi Fontaine. Je ne savais pas qu'il y avait des auteurs autochtones ou des artistes autochtones contemporains. En revenant de Pessamit, je parlais un peu plus ma langue. C'était un autre fonctionnement. Canadiens non natifs et autochtones fonctionnent différemment dans la manière de penser, le mode de vie et dans la structure de notre pensée. Je me suis dit que je pourrais en faire un texte. Je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien que je maîtrise le français aussi bien. « Donc, lui demande-t-on, vous avez développé ces deux structures de pensée, inoue et québécois. » « Oui, inoue à la maison, québécois à l'école. Mais je passais bien plus de temps à l'école. J'ai été modelée par ma vie en ville et par l'école. J'étais la seule inoue en classe. Et à un moment, je l'ai oubliée. Mais les gens le savaient. Ils me mettaient de côté parce que j'étais différente. Je me souviens avoir entendu des choses quand j'étais enfant. Mais pour moi, ça n'avait pas de sens. » Je ne comprenais pas le racisme, la discrimination. C'est beaucoup plus tard, quand j'y ai réfléchi, que j'ai compris. Le moment de votre implication dans le militantisme social a donc coïncidé avec votre retour à l'écriture. Elle répond, « Madame Fontaine, autour de 2012, on a commencé à avoir des mouvements sociaux chez les Inuits. C'était pan-canadien à la fin de cette année. Je me suis souvenue que je pouvais écrire. Je suis retournée à la poésie, à cause de Joséphine Bacon. » Et je me suis mise aussi au slam que j'ai découvert dans un bar. Parallèlement, ma démarche artistique en peinture avait mûri. et d'un coup, j'avais trois moyens d'expression, la poésie, la peinture et le slam. Donc, fin 2012, quand les mouvements sociaux sont arrivés, quand il y a eu un blocage de route, j'ai écrit un slam parce que j'étais tellement fâchée d'avoir senti tant d'incompréhension de la part des Québécois et des Blancs en général. Une incompréhension de nos valeurs, de nos principes qui ne sont pas juste des revendications. Il y a beaucoup plus de choses derrière ça. Et je me suis dit que je pourrais en faire un texte. Je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien que je maîtrise le français aussi bien. Le français vous permet de faire prendre conscience des souffrances d'une communauté dans une langue parlée par la culture dominante. Elle répond, Madame Fontaine, exactement. C'est la chose primordiale en ce moment, éduquer la population. Là où le gouvernement a failli, c'est à nous de faire le travail. C'est étrange parce que c'est ceux qui vivent l'histoire qui doivent la raconter. Comme ils sont déjà assez effacés, on a l'impression que c'est une façon d'attirer l'attention sur eux. Comment faire prendre conscience aux gens ? De plus en plus, avec les années, je pense que c'est l'art et la culture qui vont nous amener là. Et je pense que la poésie, le slam et donc le rap, dans la référence des gens, c'est facile à reconnaître. Alors, pourquoi ne pas tenter d'utiliser cet outil-là pour atteindre plus de personnes ? J'ai vu dans les dernières années que ça marche. J'ai rencontré des jeunes filles autochtones. Elles me disaient qu'elles avaient étudié mon livre et qu'elles me disaient « ça ne me gêne pas d'être politique parce que tu l'es » ou « ça ne me gêne pas d'être artiste parce que tu l'es » ou d'être les deux en même temps. Et si l'on crée un système proche de nos valeurs et principes, pensez-vous qu'on peut dire plus de choses avec l'art et la culture que dans la politique ? Oui, je pense qu'on peut avoir plus d'impact avec les arts et la culture. Par exemple, on m'a proposé cette année un rôle dans une série très connue au Québec, Unité 9. J'ai réfléchi longtemps, mais je me suis finalement dit « faut que je me lance ». C'est la série la plus regardée au Québec, avec presque 1 million de téléspectateurs. Alors j'ai dit oui. Ça se passe dans une prison pour femmes. Il y avait un manque de représentation autochtone dans cette émission. Il y aurait plus de diversité cette année et ça va pouvoir apporter un côté politique à la chose. Un seul personnage à la télé peut amener plein de sujets en même temps, dans plein de domaines. Mais comment arriver à éduquer une plus grande partie de la population et à entrer à la télévision est un moyen. Il faut jouer avec les référents culturels de la population en position dominante. C'est comme ça que je pense mon travail depuis des années. Quand j'utilise la poésie, je livre une vision très poétique de nous-mêmes. Ce style d'écriture a été amené par les Européens, donc on utilise le langage de l'autre pour lui faire comprendre des réalités qu'il ne comprendrait pas autrement.
Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent la langue. C'est bien. C'est rien. C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile. C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile. C'est bien. Et on génocide au soleil à la faute à qui on savait pas. Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de Nuit et Brouillard. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants du tiers-monde. Et si le progrès se fait la course, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Quand la mort est cotée en bourse, c'est bien. La médecine fait des pas de géant et le sida recule en bloc. Seulement les poules auront des dents avant que l'Afrique ait des médocs. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Ça régule les natalités. C'est plus de faim qu'ils vont crever. C'est bien. C'est rien. C'est bien les gamins de la guerre. Un pendu 10 de réprouvé. C'est rien que des gamins militaires. Tirera bien qui tirera le dernier. C'est bien. On fabrique des tueurs à la chaîne. Jouer aux petits soldats de 10 ans. Et puisque l'horreur est humaine, la guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant. C'est rien.
ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. On laisse un gosse, on viole sa mère, on file des armes à son petit frère. C'est bien, c'est rien. C'est bien des mômes, c'est des forçats. Du fond des mines, c'est des bagnards. C'est rien que des mômes qu'on forcera à se prostituer pour 3 dollars. La saloperie se dépayse, pédophilie ou exotisme au moins. Ça rapporte des devises, sexuelles ou pas. C'est du tourisme. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants. C'est bien. Les enfants de l'inceste, c'est rien que les enfants du mépris. Y'a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste, c'est plus que les enfants du gâchis. C'est bien. Et l'enfant dodo, l'enfant morte, celle que j'ai t'aimée, pourquoi faire? De l'enfant donne ce que j'apporte, moi, c'est l'enfance de la colère. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Si je suis venue au monde de fou, merci papa. C'est non.
Oui, ça c'est un des secrets les mieux gardés en France, Agnès Bill. Mais elle est venue déjà à plusieurs reprises, elle a fait les francopholies, déjà, au moins une occasion, si ce n'est deux. Et elle chantait « Merci papa, merci maman » à l'instant. C'est un extrait d'un disque qui a peut-être une petite dizaine d'années, mais tout est bon. Agnès Bill, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Tous les jeudis, il n'y a rien à acheter. Cette fille-là, elle écrit vraiment très, très bien. Vous êtes toujours sur les ondes de Canal M, mais c'est Clotilde Say qui vous accompagne à l'émission Le National, qui nous permet de découvrir ce qui s'écrit dans la francophonie, sur notre beau pays, dans notre beau pays. Et là, on va se transporter sur l'île du Prince-Édouard. C'est un journal qui s'appelle La Voix acadienne, qu'on retrouve notamment sur le net, lavoixacadienne.com. Et là, il sera question de nouveaux outils pour favoriser l'immunisation des insulaires. En fait, il sera question de la vaccination sur l'île du Prince-Édouard. Se faire vacciner, quel que soit l'âge, écrit Alexandre Roy, offre la protection la plus efficace et la plus durable contre les maladies évitables par la vaccination. Le taux de vaccination infantile à l'île du Prince-Édouard se trouve systématiquement parmi les plus élevés au Canada. Mais le taux de vaccination chez les adultes est bien en deçà des objectifs nationaux. Le bureau du médecin hygiéniste en chef, le BMHC de la province, s'emploie à mobiliser activement les insulaires afin de hausser la couverture vaccinale. Pour savoir quel vaccin il vous faut et connaître les endroits où il se donne, on nous donne là le nom d'une page web, écoutez, qui n'en finit plus, c'est un nom à coucher dehors. Moi, je vous dis simplement, si vous êtes de l'île du Prince-Édouard, si vous faites île du Prince-Édouard en anglais, donc Prince Edward Island, island.ca.fr, et si vous faites immunisation adulte, vous allez trouver toutes les bonnes informations. Bon nombre d'adultes à l'île du Prince-Édouard ont besoin de vaccins supplémentaires en fonction des facteurs de risque liés au style de vie et à la santé, a déclaré la docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef. Nous déployons des efforts concertés pour atteindre le plus grand nombre possible d'adultes de l'île du Prince-Édouard afin de protéger les personnes qui sont plus susceptibles de développer des complications graves causées par des maladies évitables par la vaccination. Un projet spécial a été lancé l'automne dernier auprès de certaines cliniques de vaccination de santé à l'île du Prince-Édouard. Au cours de la période d'attente suivant la vaccination contre la grippe, les adultes ont eu la possibilité d'être évalués pour déterminer les vaccins supplémentaires dont ils auraient besoin. Environ 75% des adultes évalués avaient besoin d'au moins un vaccin et ils reçoivent ces vaccins nécessaires dans les cliniques de suivi pour la vaccination des adultes offertes par les services infirmiers de santé publique. Les adultes de l'île du Prince-Édouard, donc, peuvent maintenant déterminer, je vous le disais, leurs propres besoins de vaccination en allant sur le site île du Prince-Édouard en anglais, immunisation adulte. La vaccination protège les personnes et les collectivités en empêchant la propagation de maladies, a déclaré le ministre de la Santé et du Mieux-être, Robert Mitchell. J'encourage tous les insulaires à utiliser l'outil d'évaluation en ligne et à communiquer avec les services infirmiers de santé publique ou leurs professionnels de la santé pour obtenir des renseignements à jour et prendre rendez-vous. Au fur et à mesure que nous recevons les vaccins dont nous avons besoin, le risque de maladie s'en trouve réduit, ce qui favorise la santé de notre collectivité. Dans les cliniques de vaccination, il a également été demandé aux adultes de remplir un questionnaire au sujet de leurs connaissances et de leurs croyances à propos de l'immunisation. Cette importante rétroaction des insulaires nous aidera à comprendre quelques-uns des obstacles que doivent surmonter les adultes en ce qui concerne la vaccination et, en fin de compte, à contribuer à la prestation du programme de vaccination à l'Île-du-Prince-Édouard, de dire la docteure Morrison. Les résultats de l'étude seront communiqués aux insulaires à la fin de 2018. Nous sommes toujours à l'Île-du-Prince-Édouard et toujours dans la voie acadienne. On parle de davantage de ressources psychologiques maintenant pour aider les élèves à apprendre. Et c'est encore Alexandre Roy qui nous fait part de ce papier. L'ajout de nouveaux psychologues et de ressources additionnelles dans le système d'éducation de la province permettra aux élèves de l'île de mieux apprendre. Le gouvernement de l'île a entrepris un plan triennal de 2 millions de dollars en vue de réduire les temps d'attente pour les évaluations psycho-éducationnelles qui passeront de 3,5 ans à moins d'un an, tout en augmentant les mesures de soutien pour les élèves une fois qu'ils ont été évalués. La liste d'attente continuera de diminuer au cours des prochaines 3 années. D'ici 2020, tous les élèves seront évalués en moins d'un an. Les évaluations peuvent seulement être menées par des psychologues autorisés et peuvent prendre jusqu'à 40 heures à compléter. Elles peuvent entraîner le diagnostic d'un trouble d'apprentissage ou d'une déficience intellectuelle, de l'hyperactivité ou d'un trouble mental. Un accès plus rapide aux évaluations psycho-éducationnelles permettra à un plus grand nombre d'enfants d'apprendre de la manière qui fonctionne le mieux pour eux et ils seront davantage en mesure d'atteindre leur plein potentiel sur le plan de l'apprentissage, a déclaré le ministre de l'Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, Jordan Brown. Même si ces évaluations sont essentielles, il faut également avoir les ressources nécessaires en place pour appuyer les élèves et leurs enseignants une fois que les évaluations ont eu lieu. Les initiatives suivantes feront partie de la campagne. Il y aura 2 postes de psychologues qui seront ajoutés, ce qui fera passer l'effectif de 8,4 à 10,4. Des psychologues en pratique privée se verront attribuer des contrats afin de réduire la liste d'attente. Les postes vacants seront pourvus par recrutement, par le truchement des médias sociaux ainsi qu'à l'aide de visites dans les universités. Les mesures d'incitation à l'embauche couvriront la délivrance de permis, le déménagement et d'autres coûts. 4 enseignants de soutien seront embauchés pour aider les titulaires de classe à mettre en œuvre les recommandations face au nombre croissant d'évaluations. Et enfin, 2 facilitateurs technologiques seront embauchés afin de déterminer les options technologiques pour les élèves et d'aider à la mise en œuvre des recommandations dans toutes les écoles. On constate déjà des progrès, on procède à l'embauche d'un psychologue, il y en a d'autres qui ont démontré leur intérêt. Des contrats ont été attribués à des psychologues en pratique privée qui procéderont à 68 évaluations. Une campagne de recrutement permet de joindre de nombreux professionnels qui pourraient souhaiter déménager à l'Île-du-Prince-Édouard. Les annonces de postes ont été publiées pour les nouveaux enseignants de soutien et les facilitateurs technologiques.
J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment on fait pour entrer dans vos vies pour de vrai. J'aimerais ça être votre ami, mais j'ai trop peur de me fendre. Je suis l'enfant scaphandre. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment ça marche pour être admis à bord de votre arche. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment me vendre. Je suis l'enfant scaphandre. Vous êtes libre et grand dans la lumière. Vous trouverez mes trésors très ordinaires. Entendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière? Votre ami pour gravir les mêmes falaises, prêt à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie à la craie. Je sais pas être votre ami, et je n'ai plus qu'à me rendre au pays des enfants scaphandres. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air.
Cloutier sur les ondes de Canal M avec l'enfant scaphandre. Je vous propose d'aller jusqu'au Yukon, tiens, et d'ouvrir les pages de auroreboreale.ca où Thibault Rondel signe entre autres un papier qui me semble intéressant et qui s'intitule « La santé publique se couche devant l'industrie ». La grande campagne de santé publique visant à sensibiliser les Yukonais aux ravages de l'alcool n'aura pas lieu. Alors que de nouvelles étiquettes de prévention avaient été accolées au mois de novembre sur les produits en vente au magasin des alcools de Whitehorse, le gouvernement du Yukon a annoncé, peu avant Noël, le retrait du projet. Cette mesure phare devait faire partie d'une ambitieuse étude sur la consommation d'alcool dans les territoires du Nord et visait à soutenir la stratégie yukonaise du mieux-être mental. L'une des deux étiquettes montrait un message du médecin hygiéniste en chef affirmant que l'alcool peut causer le cancer, y compris le cancer du sein et du côlon. Une seconde étiquette conseillait aux Yukonais de ne pas boire plus de 3 verres par jour pour les hommes et 2 verres par jour pour les femmes. L'industrie de l'alcool n'aura que peu goûté à cette tentative de responsabilisation sociale. Le lobby n'a pas eu à batailler plus de quelques jours pour faire renoncer le gouvernement du Yukon à son projet sanitaire. La Société des alcools a préféré tuer l'idée dans l'œuf plutôt que de risquer une poursuite en justice pour atteinte à l'intégrité des marques de commerce. Les règles fixées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont pourtant limpides et précisent également que les règlements provinciaux et territoriaux peuvent contenir des exigences relatives à l'étiquetage des boissons alcoolisées qui doivent être respectées. Le détournement d'une marque de commerce est une chose, les ravages de l'alcool sur la santé en sont une autre, et ils ne sont plus approuvés. Pas plus tard que la semaine dernière, le laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge a publié une nouvelle étude confirmant que l'alcool peut causer des dommages irréversibles aux cellules souches et favoriser le développement du cancer. Dans un entretien à CBC, le président de l'association professionnelle Bière Canada, Luke Harford, a pour sa part préféré minimiser l'utilité et la pertinence du nouvel étiquetage en expliquant que la corrélation entre le cancer et l'alcool ne peut pas être comparée avec celle établie entre le cancer et le tabagisme. Bien que le rapport 2015 de l'administrateur en chef de la santé publique du Canada indique que 3000 nouveaux-nés présentent chaque année l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale et que l'alcool reste une cause de décès significative, au sein de la population, l'industrie de l'alcool ne serait en somme qu'un enfant de cœur. M. Hartford se dit par ailleurs particulièrement préoccupé par le message conseillant aux consommateurs de limiter leur consommation quotidienne d'alcool. Selon lui, l'étiquetage pourrait faire croire aux Yukonais qu'ils sont autorisés à prendre le volant après 3 verres. Qu'ils soient de nature publicitaire, éthique ou sanitaire, les arguments simplistes, avancés par l'industrie, pourraient faire sourire s'ils ne relevaient pas d'une hypocrisie uniquement motivée par la recherche du profit. Les territoires ont toujours entretenu un rapport inquiétant avec l'alcool, un rapport du moins certainement plus tragique que dans le reste du pays. 35% des Yukonais et 28% des Yukonaises sont considérés comme de grands buveurs. Au Yukon plus qu'ailleurs, il est donc extrêmement préoccupant que les politiques de santé publique soient dictées par les intérêts des industries privées.
C'est pas très loin pour nous deux. S'agit d'y croire un peu à nos lendemains, mais nos yeux sont pas très loin pour nous deux. Suffit d'y prêter l'oreille à nos lendemains, mais nos yeux.
Pascal Lejeune sur les ondes de Canal M et l'émission Le National qui tire à sa fin. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous faire part d'un papier que j'ai trouvé dans l'eauvive.ca. Nous nous transportons à ce moment-ci en Saskatchewan. Et c'est un papier qui se pose là. En fait, c'est un éditorial et je suis désolée, mais mon imprimante a effacé subrepticement le nom de la personne qui l'a rédigé. Peut-être vais-je avoir une petite main bien intentionnée qui va aller trouver ça dans l'eauvive.ca. Le titre de cet éditorial, qui était d'ailleurs plutôt, je pense, un avis, une opinion, ça s'appelle « Du racisme françaisquois, vraiment ?» Et donc, je pense que c'est une lectrice de l'eauvive.ca qui écrit ces mots. C'est l'histoire de deux petits garçons de 6 ans, à Louisville, au Kentucky. Meilleurs amis du monde. L'un est blanc, l'autre est noir. Ils sont dans la même classe. Un jour, le petit garçon blanc demande qu'on lui fasse une coupe de cheveux comme celle de son ami. Une fois le travail complété, il déclare ravi. « Voilà, maintenant la maîtresse, ne saura plus qui est qui. J'ai vécu 40 ans à Montréal, ville multicouleur et multiculture par excellence. Mon fils y est né, il y a grandi. Quand il me parlait de ses camarades de classe, il était question de ceux qu'il aimait, ou pas, de ceux qui étaient bons au baseball, ou drôles, ou gentils, ou bons en classe, ou... Il n'était jamais question de couleur de peau. Il n'en parlait pas, parce que ça n'avait pas d'importance. Pour moi non plus, ça n'a pas d'importance. Pour la très grande majorité des Françaisquois, ça n'a pas d'importance. Ça suscite de la curiosité, bien sûr. On éprouve une certaine gêne dans l'apprentissage de l'autre, parfois. Mais la couleur, on s'en fout. Qu'on se le dise, la communauté françaisquoise dans son ensemble n'est pas raciste. On n'a qu'à consulter la liste d'employés de nos associations pour constater que nos institutions ne le sont pas non plus. Je ne dis pas que s'habituer aux uns et aux autres est toujours facile. La longue route de la réconciliation avec les Autochtones en témoigne. Pourquoi ça le serait? Même entre gens de même couleur, de même langue, de même communauté, de même famille, la bonne entente et la satisfaction de tous ne vont pas de soi. Alors imaginez entre gens de culture, de parcours, de continents différents. Et d'ailleurs, qu'entend-on par la communauté africaine? Il n'y a pas une culture africaine. Il y en a plusieurs. Sur le continent africain, on retrouve 54 pays, dans un éventail infini de cultures, de langues et de religions, de cultures politiques et de structures sociales, qui ne se côtoient pas toujours dans une parfaite harmonie. Un jour, un Haïtien a eu à mon égard un geste particulièrement déplacé. Je l'ai giflé. Il m'a dit « C'est parce que je suis noir ». Je lui ai répondu « Non, c'est parce que t'es un trou de cul ». J'ai le droit d'être en désaccord avec quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que moi sans être taxé de raciste. Le racisme est une affaire beaucoup trop sérieuse pour qu'on en brandisse le spectre à la moindre divergence. Diffuser sur les réseaux sociaux que les employés de l'ACF sont racistes, xénophobes, intimidateurs, c'est de la diffamation. Affirmer que la communauté est coupable d'apartheid communautaire, c'est complètement absurde et en plus, c'est faire injure à ceux et celles qui ont été victimes de l'apartheid, le vrai. Évidemment, ce ne sont pas tous les nouveaux arrivants qui crient au racisme et à l'intimidation dès qu'ils se heurtent à une divergence d'opinion. Ce ne sont pas tous les membres des communautés africaines qui se sentent offensés quand on leur demande d'où ils viennent. En fait, ils ne sont que quelques-uns. Mais c'est tout ce que ça prend, quelques-uns, pour créer un climat de méfiance, pour élever des murailles là où il n'y en avait pas, pour créer le « eux » et le « nous ». J'étais petite fille quand j'ai rencontré mon premier immigrant, un réfugié hongrois. Mon père lui avait offert un travail et de temps en temps, il l'amenait souper à la maison. J'étais fascinée, lui aussi. On n'arrêtait pas de se poser mutuellement des questions. Pourquoi certains voient-ils dans le « d'où viens-tu » une manifestation raciste? Pourquoi s'offenser d'une curiosité toute naturelle, d'ailleurs, quand on y réfléchit? Ce qui suscite la curiosité sur les origines d'une personne, ce n'est pas sa couleur, mais son accent, parlez-en aux gens d'Europe de l'Est ou même à ceux du lac Saint-Jean. Et grâce à l'immigration, le paysage françaisquois peut se métamorphoser et s'enrichir. Mais il faut pour cela faire preuve de respect et d'ouverture. Pour ceux qui étaient ici, cela veut dire accepter que les choses ne seront plus les mêmes. Pour ceux qui arrivent, cela veut dire respecter l'histoire qui était déjà en marche, les us, coutumes et même les défauts d'une société qui les a accueillis à bras ouverts. Pour tout le monde, cela veut dire prendre le temps de découvrir l'autre. Et pour cela, il faut bien demander « Tu viens d'où ?» Alors, je voudrais remercier mon camarade Mathieu Tessier, d'abord parce qu'il a agi à titre de technicien sur cette émission et puis aussi parce que c'est lui qui a fait la petite recherche pour aller retrouver dans l'eauvif.ca. Je vous rappelle que c'est un journal qui paraît en français, en Saskatchewan, et c'est Michel Fortin, Michel Le Fortin, ça s'écrit même avec un Y, tiens, qui écrivait ce papier qui s'intitulait « Du racisme françaisquois, vraiment ». Et c'est ce qui vient mettre un terme à cette émission Le National pour cette semaine, émission présentée pour vous par Clotilde Sey sur les ondes de Canal M. Je suis très contente d'avoir été là. Je vais vous souhaiter une agréable fin de semaine et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, pour un nouveau National, d'autres papiers que j'irai glaner dans les journaux francophones du Canada. Merci encore Mathieu, merci à vous d'être là et au plaisir.